Radio Okapi. Okapi.
À la une de l'actualité, l'arrivée aujourd'hui à Kinshasa du secrétaire général des Nations Unies et du président de la Banque mondiale. C'est pour accélérer le développement et consolider la paix. Une visite qui intervient sur fond de tension dans l'Est où FARDC et M23 s'affrontent depuis lundi matin. Projet Grand Inga, le coût estimé à 80 milliards de dollars selon les experts. Le ministre des Ressources hydrauliques estime que ce projet sera d'un grand pourvoyeur de revenus à la RDC. Au Katanga, c'est plus de 1500 policiers impayés depuis plusieurs mois. Le directeur adjoint des ressources humaines de la PNC confirme l'étude des dossiers des concernés pour paiement avec rappel des arriérés. Bonjour et merci de suivre Radio Okapi. Le secrétaire général des Nations Unies et le président du groupe de la Banque mondiale arrivent aujourd'hui à Kinshasa. Ban Ki-moon et Jim Yong Kim viennent pour rencontrer les dirigeants de la région des Grands Lacs en vue de leur annoncer une série d'engagements précis et propres à accélérer le développement et à consolider la paix. Les deux visiteurs vont se rendre outre en RDC, en Ouganda et au Rwanda. Innocent Olinga.
Si pour Ban Ki-moon, c'est sa troisième visite en RDC depuis janvier 2007 qu'il est secrétaire général des Nations Unies, c'est la toute première fois pour l'Américain Jim Yong Kim, nommé président de la Banque mondiale en avril 2012. Cette visite commune, une première et liée, indique le message conjoint des deux personnalités à l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région. Cet accord, rappelons-le, a été signé par 11 pays africains à Addis Abeba en vue de tenter de régler les problèmes communs de sécurité et de développement. La visite de Ban Ki-moon et de Jim Yong Kim intervient pendant que la brigade d'intervention se déploie dans l'est de la RDC, notamment à Goma. Cette visite intervient aussi au moment où les affrontements ont repris entre les rebelles du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo autour de la ville de Goma. Des affrontements qui donnent un message pas très bien aux deux visiteurs de la RDC.
Le secrétaire général de l'ONU arrive au Congo au moment où les hostilités ont repris entre les FARDC et les rebelles du M23. D'après la coordination de la société civile du Nord Kivu, les combats qui opposent les deux parties étaient prévisibles car ils ont été planifiés par le mouvement rebelle. Son vice-président Omar Kavota indique que la société civile avait alerté plusieurs fois les autorités congolaises sur la planification de ces affrontements par le M23. Tout en déplorant la reprise de ces hostilités, Omar Kavota dénonce la présence des troupes rwandaises aux côtés du M23. On l'écoute au micro de Radio Okapi.
C'était prévisible. Nous avions alerté les autorités depuis le week-end dernier sur des manœuvres du M23 visant à attaquer la ville de Goma et défier la brigade d'intervention de l'ONU. Nous pensons que les autorités ont traîné les pieds pour prendre des dispositions. Mais tout de même, nous sommes en train de demander à cette brigade des Nations Unies à se mettre en œuvre. Parce que c'est la sécurité des milliers de populations en ville de Goma et dans les périphéries qui est en danger. Nous avons également des informations fiables que l'armée rwandaise est en appui au M23. D'ailleurs, cette journée, plus de 300 personnes de l'armée rwandaise ont franchi la frontière de Gasizi pour se retrouver aux côtés du M23. Et c'est visible parce qu'ils l'ont fait à pied à travers la localité de Kingarambe. Il est plus qu'urgent, avant l'arrivée de Ban Ki-moon, que des dispositions soient prises pour démanteler le M23.
Sachez que la MONUSCO n'a pas confirmé ni infirmé cette information jusqu'ici. Et puis hier, dans une conférence de presse à Kinshasa, le porte-parole du gouvernement a lui aussi dénoncé la présence d'un pays étranger voisin à la RDC, dont les troupes appuient les rebelles du M23 dans ses combats. Selon le ministre Lambert Mende, je cite, « des armes lourdes et plusieurs caisses de munitions en provenance d'un pays étranger voisin ont été récupérées dans deux positions avancées de l'ennemi, passées sous contrôle des forces régulières congolaises. » Lundi dans la soirée. Fin de citation. Le porte-parole du gouvernement condamne ces attaques qui, selon lui, ne sont pas le fait du hasard. Lambert Mende.
Cette énième attaque contre notre pays, manifestement préparée de longue date, au regard des moyens humains et matériels projetée par les forces négatives vise manifestement à dissuader, voire empêcher le déploiement de la force spéciale internationale. Vous savez également comme moi que nous sommes à la veille d'une visite importante du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, dans notre pays. Tout laisse croire que le M23 et ses mentors veulent créer une situation qui leur permettrait de perturber cette visite.
Monsieur le ministre, vous parlez d'un pays voisin qui a armé le M23. Pourquoi vous ne voulez pas citer ce pays alors que la société civile du Nord Kivu a cité le Rwanda qui aurait envoyé des militaires et des armes?
Mais je pense que nous ne disons pas deux choses différentes. Vous avez prononcé, la société civile l'a prononcé. Vous croyez que ça entrera dans l'oreille des Congolais uniquement? Si moi je le dis, je pense que tout le monde a entendu.
Au titre de bilan de ces combats, le ministre Lambert Mende a avancé hier le chiffre de 15 morts et 21 blessés du côté des rebelles du M23, 4 morts et 6 blessés dans les rangs des FARDC. Il a ajouté que 8 assaillants ont été capturés, dont un mineur. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs a de son côté rencontré hier mardi à Kinshasa les membres de la société civile, les organisations féminines ainsi que les partis politiques de la RDC. Pour Mary Robinson, le but de cette réunion est de discuter avec des Congolais sur des mécanismes et principes directeurs du règlement de la crise dans l'est de la RDC. Par ailleurs, elle s'est dit préoccupée par la reprise des hostilités dans l'est du pays. Mary Robinson est au micro de Jean-Didier Ogobani.
Quand j'étais ici la dernière fois, j'ai parlé de l'accord cadre du 24 février comme accord cadre de l'espoir. Maintenant, j'ai formé des principes directeurs du règlement de la crise dans l'est de la RDC parce que je suis très préoccupé qu'il y a des incidents dans les derniers jours dans l'est de la RDC.
Vous avez évoqué l'accord cadre d'Addis Abeba alors que les combats viennent de reprendre entre les FARDC et les M23. Cette reprise des hostilités ne fragilise-t-elle pas l'application de l'accord d'Addis Abeba?
Je suis préoccupé que ça a commencé, surtout avant la visite du secrétaire général. Mais je suis tout à fait convaincu que cet accord cadre, c'est un accord cadre de l'espoir. Et comme envoyé spécial du secrétaire général, je vais faire le mieux possible pour assurer qu'on cesse cette violence.
De son côté, la présidente nationale de la Ligue des démocrates congolais, l'IDEC, souhaite que les signataires de l'accord d'Addis Abeba respectent leur engagement. Angèle Makombo dit regretter que l'élaboration des principes directeurs de la résolution de la crise dans l'est de la RDC n'ait pas fait l'objet d'un consensus. Parlons projet Grand Inga. Les tractations continuent pour sa mise en œuvre. Le week-end dernier, la République démocratique du Congo et la République sud-africaine s'étaient réunies à ce sujet à Paris, en France, avec des investisseurs. Le ministre congolais des ressources hydrauliques et électricité estime que ce projet, s'il se réalise, sera un grand pourvoyeur des revenus au gouvernement congolais. Bruno Kapanji le dit à Innocent Olinga.
Dans le traité de coopération énergétique avec l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud s'est engagée à acheter sur la première phase de Grand Inga, c'est-à-dire Inga 3, sur les 4800 MW à produire, l'Afrique du Sud s'est engagée à acheter 2500 MW. Les 2300 qui restent, c'est pour nous. Ça va servir le développement de notre pays. Le coût de Grand Inga à terme va atteindre à peu près 80 milliards de dollars. Mais ça pourra être moins, comme ça pourra être plus, mais ce sont les études qui vont le démontrer. Aujourd'hui, ce sont des estimations des experts. Mais pour Inga 3 et lignes associées, le coût est de 14 milliards de dollars. Et c'est la BAD qui a accordé à la République démocratique du Congo un don de 14 millions et demi.
Bruno Kapanji sera l'invité de Radio Kapi à 7h33, heure de Kinshasa. Terminons ce journal au Katanga. Plus de 1500 policiers de cette province sont impayés depuis plusieurs mois. Certains se disent abandonnés et ne savent pas faire face à certaines obligations familiales, notamment la scolarisation de leurs enfants. Contacté à ce sujet, le directeur adjoint des ressources humaines à la police nationale congolaise les invite à prendre leur mal en patience. Leurs dossiers sont à l'étude, affirme-t-il. Une fois terminés, ils seront payés avec rappel de leurs arriérés. D'après lui, cette situation concerne les policiers de plusieurs provinces. Qu'est-ce qui justifie cette situation? La réponse avec le commissaire supérieur principal, Donda Kimbi, joint au téléphone par Jean Gandou.
Le gouvernement avait décidé que désormais les policiers soit payé par voie bancaire. Nous avons utilisé à cette occasion-là le fichier qui a été produit lors du contrôle biométrique. C'est ce fichier-là qui a été transmis au niveau du gouvernement et qui a servi justement à produire des listings de paye à partir du mois d'octobre. Et comme vous le savez, l'opération du contrôle biométrique s'est déroulée à travers toutes les provinces. Il y a des gens qui n'ont pas répondu à cette opération de contrôle biométrique. Et ce sont ceux-là qui sont justement victimes de l'impayement à ces jours. On avait amorcé la solution depuis le mois de décembre. On a quand même retenu par rapport à l'enveloppe qui nous était destinée 4236 qui ont commencé à être payés à partir du mois de décembre de l'année passée. Il reste encore une partie qu'on est en train de travailler. Dès que les précisions sont prêtes, on va encore une fois poser le problème au gouvernement pour une paye complémentaire. Pour le moment, il a été question que nous puissions savoir exactement qui n'est pas payé s'il a la qualité de police. C'est un travail minutieux qui devait d'abord être fait. Et dès que ça sera prêt, on va le transmettre à qui des droits. Le gouvernement va apprécier, ils auront droit aux arriérés, il n'y a pas de problème.
Ainsi prend fin ce journal. Merci de rester sur Radio Capi.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.